Deutsche Welle, émission spéciale.
Bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle. Nous sommes le 1er novembre 2016 et il est 7h en temps universel. Aujourd'hui est un jour férié en Allemagne, alors nous vous proposons une émission spéciale ce matin et une autre ce soir, toutes deux en forme de pages d'histoire. Elles sont en effet consacrées toutes les deux aux relations entre l'Union soviétique et l'Afrique. Alors pourquoi parler maintenant du RSS ? Eh bien parce que cela fait 25 ans cette année que les anciennes républiques soviétiques ont obtenu leur indépendance dans la foulée de l'effondrement du bloc de l'Est. 25 ans donc que la guerre froide est officiellement terminée. Or, le géant soviétique a entretenu des relations privilégiées avec de nombreux États africains, des relations qui ont laissé des traces encore visibles aujourd'hui pour certaines. Dans la prochaine demi-heure, nous allons donc parler de l'URSS en tant que telle, de ses liens avec le Bénin, ancien Dahomey, avec l'Éthiopie, et nous entendrons aussi le témoignage d'un Malien qui a étudié en URSS et qui vit encore aujourd'hui en Russie. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Avant de nous intéresser aux relations entre l'URSS et les pays africains, penchons-nous sur l'Union soviétique elle-même. Créée en décembre 1922, l'Union des républiques soviétiques, ce sont 8 décennies d'histoire, une idéologie, une puissance économique, une guerre mondiale et une guerre froide. Ce sont des noms, Lénine, Staline, Gorbatchev notamment, et aussi des millions de morts. De sa naissance à son effondrement, un bref retour sur l'histoire d'un empire gigantesque avec Philippe Pognon.
L'International est, à partir de 1922 et jusqu'en 1944, l'hymne de l'URSS. Fondée au sortir de la Première Guerre mondiale, cette entité est dirigée par la tête pensante de la révolution bolchevique qui a chassé le tsar Nicolas II du pouvoir, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Son parti, le Parti communiste de l'Union soviétique, devient rapidement un parti unique. En 1923, une constitution est rédigée. Elle vaut pour toutes les républiques fédérées qui sont étroitement contrôlées par Moscou. De manière générale, toute voix contestataire ou dissidente est brutalement réprimée et la persécution des ennemis du régime par une police spécifiquement dédiée à cette tâche sera malheureusement une tradition qui se perpétuera jusqu'à la chute du régime. À la mort de Lénine en 1924, c'est Joseph Staline qui lui succède après avoir éliminé tous ses concurrents. Léo Trotsky notamment. Dans les années 30, le dirigeant élargit la répression à l'ensemble de la population. Des millions de personnes, le plus souvent innocentes, sont alors victimes de ces purges. Sur le plan économique, Staline entreprend une politique de collectivisation forcée au prix d'une famine effroyable, notamment en Ukraine. Son pouvoir est total jusqu'à l'attaque surprise de l'Allemagne nazie en 1941.
Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
Товарищи, граждане, братья и сестры.
Camarades, citoyens, frères et sœurs, combattants de notre armée et de notre flotte, je m'adresse à vous, mes amis. La perfide agression militaire de l'Allemagne hitlérienne commencé le 22 juin, se poursuit contre notre patrie. Face aux armées nazies, l'URSS vacille, mais finit par rassembler ses forces et à remporter la victoire avec ses alliés, États-Unis et Grande-Bretagne. Environ 20 millions de citoyens soviétiques perdent la vie dans la Grande Guerre patriotique, soit 10% de la population de l'Union soviétique. De nombreuses régions sont dévastées. En 1944, Staline adopte un nouvel hymne à sa gloire et à celle du peuple soviétique, un hymne qui est celui de la Russie aujourd'hui. Seules les paroles ont été modifiées. La Seconde Guerre mondiale terminée, la guerre froide commence. Les deux premières puissances mondiales, États-Unis et URSS, s'affrontent sur le plan militaire, idéologique et économique par alliés interposés en Europe, mais aussi dans l'hémisphère sud, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Après la mort de Staline en 1953, son successeur, Nikita Khrouchtchev, entre dans les livres d'histoire pour sa politique de déstalinisation et la crise des missiles à Cuba. Le système coercitif s'assouplit quelque peu jusqu'à ce que Léonid Brejnev lui succède en 1964. Avec lui, le pouvoir du parti, de l'armée et des services secrets, le KGB, sont à nouveau renforcés. Ses réformes économiques restent lettre morte, butant sur l'opposition de la nomenklatura, l'élite du parti communiste qui bénéficie de généreux privilèges. Seuls quelques dissidents arrivent à se faire entendre à l'étranger. Les deux plus célèbres d'entre eux sont l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn et le physicien Andrei Sakharov. Deux chefs d'État en mauvaise santé se succèdent alors entre novembre 1982 et mars 1985. Il s'agit de Youri Andropov et de Konstantin Tchernenko. À la mort de ce dernier, Mikhail Gorbatchev entreprend enfin de réformer l'Union, non sans mal. Il lance la perestroïka pour moderniser le système économique et social et le glasnost pour libéraliser la politique d'information. À l'extérieur, il parvient à stopper la course aux armements et par-delà l'affrontement Est-Ouest. Il ouvre aussi la voie à la réunification allemande. Mais ses efforts arrivent trop tard. Inspirés par ses idées de liberté et de démocratie, les 15 républiques socialistes soviétiques déclarent une à une leur indépendance. Le 26 décembre 1991, l'URSS est officiellement dissoute et remplacée par la Communauté des États indépendants qui existe toujours aujourd'hui.
Pendant des décennies, la Russie puis l'Union soviétique n'a pas eu réellement de visée expansionniste sur le continent africain. Mais dans les années 1950-1960, quand la plupart des États du continent obtiennent leur indépendance des puissances coloniales, l'URSS fait figure d'alternative politique possible. Elle propose en effet un modèle politique et idéologique radicalement opposé à celui du bloc occidental. L'URSS considère alors le tiers-monde comme un allié potentiel contre l'Occident. Et la pensée marxiste-léniniste, avec ses idéaux égalitaires et internationalistes, séduit de nombreux leaders africains. Nombreux s'engagent donc dans des partenariats avec l'Union soviétique. L'URSS soutiendra activement Patrice Lumumba, notamment, qui se fera malgré tout assassiner au Congo. Moscou soutient aussi les nouveaux États aux Nations Unies. Et l'URSS dénonce le régime ségrégationniste en place en Afrique du Sud. De nombreux nouveaux dirigeants africains mettent en place des formes étatiques largement inspirées de l'URSS, avec un pouvoir central fort, un parti unique, une armée et une police qui sont considérés comme les piliers d'un exécutif répressif. Et il s'ensuit, sur le plan économique, une vague de nationalisation. En Afrique de l'Ouest, la Guinée ou encore le Bénin sont de bons exemples de cette politique. Les débuts des relations entre le Bénin et l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques remontent à 1963, c'est-à-dire au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance. Et environ 10 ans après, ces liens sont consolidés par l'adoption, par le gouvernement béninois de l'époque, de la doctrine marxiste-léniniste et des principes du socialisme scientifique. Plusieurs endroits, à Cotonou, la capitale économique du pays, rappellent encore cette période. L'un des plus emblématiques est sans doute la place de l'Étoile Rouge, où notre correspondant permanent sur place, Rodriguez Odje, a rencontré un membre fondateur du Parti communiste du Bénin, avec qui il a évoqué cette époque pas si lointaine.
Grand carrefour giratoire de plusieurs axes au cœur de Cotonou, la capitale économique, la place de l'Étoile Rouge est le plus important des symboles ayant marqué les temps forts de la révolution marxiste-léniniste au Bénin.
La place Bulgari, la place de Lénine, la place du Bicentenaire, ainsi de suite. Donc, qui sont des places qui évoquent de grands souvenirs des luttes internationales du prolétariat.
Fidèle Kenom, septuagénaire, est membre fondateur et aujourd'hui de la direction du Parti communiste du Bénin. Cette place construite par les Russes évoque pour lui des souvenirs sombres de la répression des luttes politiques et syndicales.
La place de l'État Rouge a été créée en 1974-1975. C'est un moment où le mouvement démocratique a connu une grande répression. Si bien qu'après, on ne faisait même pas de manifestations avec les travailleurs ici. Ce ne sont que des parades militaires qui se font ici. Certes, il y avait la relation URSS-Bénin qui ont conduit à ériger la place. Donc, de ce point de vue, c'est un acquis des peuples. Mais ensuite, c'est évident que c'est un pôle de ralliement pour différentes manifestations, y compris celles qui ont eu lieu en décembre 89. Ce n'est pas la seule du 11 décembre, hein, où après on a chassé Kérékou à l'église Saint-Michel. Hein.
Justement, le jeune président Mathieu Kérékou, alors à la tête du Parti de la Révolution populaire du Bénin, sous la bannière de la nouvelle idéologie marxiste-léniniste, s'était engagé dans une violente campagne de restructuration et retrouvait sur son chemin Fidèle Kenom et ses camarades communistes.
S'en prendre à des jeunes qui sont liés au Parti communiste d'Ahomé, ce qui était net, déjà avec la préfiguration de ce parti à partir de 1974, donc à l'université, ça a frappé fort. Et ensuite, en 1976, ça a frappé fort en arrêtant les fondateurs du PCD, notamment ceux qui ont pris le relais pour que ça prospère. À partir de ce moment, le PAPB avait déjà échoué.
Mais les acquis de cette période n'auront pas été que négatifs.
En tout cas, le Bénin a gagné énormément la formation des cadres. Il y a énormément d'anciens, des intellectuels qui ont été formés en URSS et de grande valeur. Donc, dans tous les cas, l'expérience de l'éducation en URSS et l'expérience même de l'utilisation des langues nationales sous la conduite de Lénine et de Staline est immense et demeure exploitable.
Rodrigue Guézaudier à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Pour recevoir des messages au WhatsApp de la Deutsche Welle, inscrivez-vous sur notre site dw.com/français.
Mais l'un des premiers États à avoir vraiment tissé des liens forts avec Moscou, c'est l'Éthiopie. Déjà à l'époque impériale, la Russie entretenait des relations avec le pouvoir d'Addis Abeba, qu'elle a aidé notamment dans sa résistance contre les colons européens. La révolution de 1974 en Éthiopie renverse l'empereur Haïlé Sélassié et le pays entre dans une nouvelle ère. Elle sera communiste. Le régime en place en Union soviétique voit ce bouleversement d'un œil favorable, bien sûr, et il espère bien que l'Éthiopie va lui servir d'allié géostratégique, notamment pour la navigation au large de la Corne de l'Afrique, mais aussi de porte d'entrée pour étendre encore sa sphère d'influence sur le continent africain. Inès Kakiza.
À l'époque, l'Éthiopie est ouvertement communiste et la religion interdite au profit de l'athéisme. La place Mescal s'appelle alors place de la Révolution. Et c'est là que le dictateur Mengistu Haïlé Mariam tient ses discours devant des foules. Enthousiaste au début, il se dit chef incontesté du DERG, le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste. Abebe Haïlou, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, était étudiant en droit à cette époque. Il a participé aux manifestations estudiantines qui ont fait chuter l'empereur Sélassié et il se souvient.
America.
L'Amérique ne nous a pas aidés. Cela a été une erreur stupide. Alors le DERG s'est tout bonnement jeté dans les bras de l'Union soviétique qui, elle, lui a fourni des armes. Ils nous ont précipités dans les bras des soviétiques.
Tamrat Kebede aussi est étudiant à l'époque. Aujourd'hui, il travaille dans un think tank qui promeut la paix et la réconciliation à Addis Abeba.
We didn't see the capitalist model as...
Nous ne considérions pas le modèle capitaliste comme praticable. Et quand j'ai fini mes études aux États-Unis, j'ai été engagé par le ministère éthiopien pour la réforme agraire et je me suis rendu compte de l'exploitation des paysans par les propriétaires terriens. Il y avait un besoin patent de justice sociale.
Mais la révolution s'est enlissée dans les dissensions sur la mise en application des grands principes. Et Mengistu a pris la main et instauré un régime militaire cruel. Cette période est surnommée la Terreur Rouge. En plus des guerres qu'elle mène contre la Somalie, l'Éthiopie tente de réprimer dans le sang une insurrection dans le nord pour réclamer l'indépendance de l'Érythrée. Mengistu, lui, fait de son mieux pour embrasser le marxisme-léninisme afin de complaire à Moscou. Mais la population éthiopienne a du mal avec la rhétorique communiste qui rompt avec des traditions très ancrées dans l'histoire de ce pays orthodoxe très pieux. Alors les grands rassemblements de la place de la Révolution perdent petit à petit de leur superbe. Tamrat Kebede.
Il y avait une image de Marx, Lénine et Engels ici. C'était des concepts tellement étrangers à nous. On avait fabriqué nos propres héros avant la révolution Tewodros et Meneli. Et là, on nous imposait ces trois balbus qui n'avaient aucun lien avec notre culture ou notre société.
Durant la Terreur rouge, des dizaines de milliers de personnes sont tuées. Accusé d'être contre-révolutionnaire, lorsqu'il était encore étudiant, l'avocat Bébé Haïlou a vu six de ses condisciples exécutés.
Cela fait partie du marxisme-léninisme de se trouver soi-même progressiste et de tuer les autres que vous accusez de conservatisme. D'autres pays africains ont opté plus pour un partenariat économique, plus que pour l'idéologie. Mais nous, c'était surtout l'idéologie qui comptait. Une dictature militaire, en principe, ça ne peut pas s'accommoder du marxisme-léninisme. C'est impossible.
Ça pose des vies.
Dans les années 1980, c'est l'URSS elle-même qui traverse une période de chamboulement interne. À cette époque, Patrick Gilles travaille en tant que journaliste dans la Corne de l'Afrique. Il s'installe en Éthiopie et travaille désormais pour le ministère éthiopien des Affaires étrangères.
C'est la politique de changement initiée par Gorbatchev qui a mené le derg à sa fin. Mengistu s'est ouvert à la coopération économique avec les États-Unis et a cherché à obtenir des armes d'Israël. Mais c'était déjà trop tard.
En mai 1991, les rebelles entrent dans Addis Abeba et c'est la fin du derg. Mengistu a déjà fui au Zimbabwe et l'influence soviétique sur l'Éthiopie se termine. Aujourd'hui, les principaux partenaires de l'Éthiopie sont les États-Unis, l'Union européenne, les pays du Golfe et la Chine.
Au-delà des liens politiques et économiques, les partenariats entre l'URSS et l'Afrique ont aussi souvent pris la forme d'échanges universitaires poussés. Je me suis entretenue avec Joseph Diassana. Ce Malien est parti en 1987 à Moscou, après avoir obtenu une bourse d'études en journalisme. À la chute de l'URSS, il est rentré au pays, puis il est retourné finalement en Russie, où il vit toujours. Il nous raconte ici ses souvenirs quotidiens d'un étudiant africain originaire de Bamako qui débarque tout à coup sur ce qui s'apparente presque à une autre planète.
J'avais déjà une image d'un pays qui est tout à fait fermé, avec les droits de l'homme qui sont plus ou moins inquiétants. Donc, ce n'était pas tellement mon point de vue de venir faire des études ici. Voilà. Bon. Mais j'avais eu des anciens, déjà, ils avaient fini Saint-Pétersbourg. Ils avaient fait le journalisme en Union soviétique et ils ont déjà étudié là-bas et ils travaillaient à la radio Mali. Donc, ils m'ont donné assez de conseils pour dire que non, les études, c'était beaucoup plus stable. On n'était pas forcé de passer les journées à travailler pour payer ses études ou de se stabiliser en fin de compte. Bon, en définitive, ils m'ont convaincu.
Et est-ce que vous vous souvenez de vos premières impressions en arrivant ?
Quand je suis arrivé, effectivement, j'ai passé presque une semaine à pleurer. Et je voyais quand même que c'était tout un destin qui changeait. Donc, je suis venu dans un pays où la langue posait un problème. Le temps, c'était un problème. Le soleil auquel j'étais habitué était quasi absent. Donc, je me retrouvais quand même un peu plus seul, lourd. Et je ne savais pas exactement de quoi sera fait mon avenir.
Comment est-ce que vous avez pu nouer vos premiers contacts ?
Bon, les premiers contacts sont surtout avec les anciens, déjà des Maliens qui étudiaient ici. Il faut reconnaître qu'à l'époque, la communauté malienne était très, très organisée, comme des petites branches politiques. Il y avait l'union déjà des étudiants maliens en Union soviétique. Il y avait un autre groupe qui était beaucoup plus modéré. C'était aussi une autre association des étudiants maliens. Donc il y avait deux groupes et qui faisaient la conquête aux jeunes qui arrivaient. Chaque fois, chaque week-end, on était invités par les uns et les autres, des jeunes intellectuels qui connaissaient très bien l'histoire du pays et qui étaient très patriotes quand même.
Vous avez accepté au quotidien de vous sentir un peu restreint dans vos libertés ou est-ce que vous vous êtes rendu compte sur place que finalement ces restrictions n'étaient pas si graves que ce que vous pensiez, pas aussi importantes?
J'ai compris ici qu'il y avait d'abord des étudiants de différents pays. Il y avait du Congo, il y avait la République dominicaine. Nous étions également avec des Espagnols, il y avait quelques Français, c'est vrai. Et j'ai compris que ce n'était pas le monde qu'on nous avait dessiné. Nous, on avait rêvé d'étudier en France. Et ici, on se retrouvait avec même des Japonais. Donc l'Occident était là avec nous. Et j'ai compris également que avec les Angolais, les Congolais, les Sud-Africains à l'époque, qu'il y avait une sorte de lutte pour l'émancipation, bien sûr, de nos pays, parce que c'était des cadres qui retournaient avec des grands diplômes. Donc il y avait cette petite concurrence entre les pays, entre les communautés. C'est ce qui m'a poussé un peu à oublier cet aspect néfaste du temps et puis des libertés, et à me consacrer surtout sur la qualité des études.
Et est-ce que vous avez pu avoir aussi des contacts avec des Russes rapidement, et comment vous êtes-vous senti accueilli?
Le contact avec les Russes à l'époque était très difficile, puisque nous vivons dans un foyer où les Russes qui sont avec nous, ils avaient aussi une autre organisation qu'ils appelaient le Komsomol. Donc le Komsomol, c'est une organisation qui encadre les jeunes Russes et qui sont en même temps surveillés de près dans ces foyers, à ne pas tellement avoir des contacts avec les étrangers.
Ils ne voulaient pas non plus, par exemple, qu'il y ait des amours qui se créent ou qui se tissent,
bon,
pardon.
Oui. Bon, je comprends que c'est une protection culturelle. Ils voulaient quand même que ces jeunes-là soient beaucoup plus protégés et que le contact avec nous soit plus ou moins limité. Bon, mais l'être humain, il est séculaire quand même.
Comment est-ce que vous avez vécu de l'intérieur, j'imagine, alors ce délitement de l'URSS?
Bon, au fur du temps, on a commencé à prendre goût à cette vie, parce que quelque part, la vie était plus ou moins facile pour nous, je veux dire sur le plan matériel. La petite bourse qu'on percevait de nos pays, ça nous permettait de bien vivre. Avec les différents changements, le grand changement quand même, c'est sur la chute de l'Union soviétique, dont le destin de pas mal d'étudiants africains a basculé automatiquement. Je me souviens des Maliens qui étudiaient dans les pays baltes, en Ukraine, en Azerbaïdjan, à Bakou. Ils se sont tous retrouvés directement hors des responsabilités ou bien du ministère de l'éducation russe. Il fallait remettre en cause tous les accords. Donc certains sont rentrés sans vraiment diplôme parce qu'ils ne pouvaient plus survivre. Dans les accords, c'était dit qu'à la fin de tes études, l'Union soviétique s'occupait de rapatrier. Donc le billet de retour était à la charge de l'État russe, de l'Union soviétique, je veux dire.
Et tout à coup, cet État n'existait plus.
Voilà. Donc à la fin des études, certains sont restés plus qu'il en faut, 7 mois, voire même 8 mois. Ils sont expulsés du foyer puisqu'il fallait payer. Et en même temps, ils n'avaient pas de bourse. Donc ça créait vraiment un problème ici, franchement.
Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, du moment où vous avez appris la chute du mur de Berlin? Est-ce que ça vous a fait, si ça a suscité des émotions peut-être en vous ou autour de vous?
Petit à petit, on voit que la ferveur, ça arrive. Les protestations s'amplifient au niveau, maintenant, à l'intérieur même de l'Union soviétique. Il y a les pays baltes qui commencent à chercher leurs indépendances. Il y a également la Géorgie qui demande son indépendance, donc on envoie des chars. C'est quand ces pays-là ont commencé à sortir de l'Union soviétique qu'on s'est rendu compte que c'était un drame. Les gens n'étaient pas tellement prêts pour le capitalisme. L'État avait tellement en charge pas mal de choses, et les gens sont habitués à ça, la stabilité. Donc je pense que les gens n'ont pas été préparés pour prendre en charge leur propre destin. Beaucoup de gens sont allés en Allemagne, beaucoup de gens ont envahi l'Europe où on pouvait acheter de très bonnes choses. Ils se sont rendus compte aussi que c'était trop cher, donc il faut aller vers la Turquie. Ils ont fait beaucoup d'argent et les gens ont commencé à être des hommes d'affaires. C'est d'ailleurs les années 90, c'est plus des années de hors la loi.
Oui, c'est ça, il y a eu une débauche de nouveaux riches un peu qui ont émergé à ce moment-là.
Absolument, absolument.
Profiter des privatisations.
Absolument, absolument.
De la dérégulation.
Moi, je trouve quand même que c'est une liberté mal donnée. Je voyais un Gorbatchev, pour un départ, c'est un monsieur que j'ai applaudi, parce que j'ai vu des Russes qui ne pouvaient pas sortir. Un jean, c'était comme un trésor. Les étudiants qui avec nous, bon, russes, je veux dire, Ils appréciaient les Marlboro. Ils appréciaient aussi des cigarettes de la Bulgarie, qui étaient un tout petit peu moins chères que les Marlboro. Ils n'avaient pas accès aux dollars, puisque les dollars, c'était, disons, les devises, c'était les étrangers qui pouvaient les avoir. Et il y avait une petite spéculation. Bon, donc, comme c'est dit, ce qui avait commencé la spéculation sur l'Union soviétique, avec des dollars cachés, quand ils ont ouvert le pays, automatiquement, avec cette devise, ils sont devenus les premiers millionnaires.
Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, selon vous, à Moscou, entre le temps où, l'époque à laquelle vous étudiez là-bas et aujourd'hui?
Les Russes ont découvert quand même l'Occident, qui sont allés au-delà de l'Occident, en Afrique. Bon, ils sont beaucoup plus aimables, ils sont beaucoup plus compréhensifs, ils viennent beaucoup plus aux étrangers. Ils veulent créer des sociétés avec les étrangers. Les Russes, ils ont appris à faire l'argent. Donc, ils ne sont pas tellement prêts à retourner à la vie d'antan. Non.
Très bien, Monsieur Diassana, un grand merci.
Merci beaucoup, madame.
au revoir.
Au revoir beaucoup. Au revoir.
C'est la fin de cette émission spéciale. Nous nous retrouvons ce soir pour le second volet de ce retour historique sur les relations entre l'Union soviétique et l'Afrique. Nous parlerons de l'engagement militaire en Afrique du Sud, au Mozambique, en Angola de troupes soviétiques et aussi de l'influence communiste au Sénégal et de la voie particulière sur laquelle Thomas Sankara a décidé d'engager le Burkina Faso. Rendez-vous ce soir à 17h TU après le Flash Info sur les ondes de la Deutsche Welle. Et puis sur notre site internet www.com/français sans la cédille français comme d'habitude. À ce soir.
Qu'ont-ils fait à Thomas Sankara? Qu'ont-ils fait? Ça, moi, je ne le sais pas. Qu'ont-ils fait à Thomas Sankara? Qu'ont-ils fait? Ça, moi, je ne le sais pas. Ils ont fait mal à sa mère, ils ont repris tous les terres. Ils ont fait mal à ses frères. Oh, 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 oh. Qu'ont-il fait à Thomas Sankara? Qu'ont-il fait? Ça, moi, je ne le sais pas. Qu'ont-il fait à Patrice Lumumba? Qu'ont-il fait? Ça, moi, je ne le sais pas. Ils ont fait mal à sa mère, ils ont repris tous les terres. Ils ont fait mal à ses frères. Oh, 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 oh. De Ouaga à Bamako, ton maman qu'à l'Afrique. Oh, oh. Manque à l'Afrique, oh, oh, eh, 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 eh. Analala Nudem, Adjoma Sankara. Lala Nudem, Apatrizumba.